À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il serait question d'un très grand éducateur. Un éducateur auquel on doit les écoles gratuites pour les pauvres. Avant lui, il n'y en avait pas. Il est mort en 1648. C'est un très grand éducateur qu'on compare souvent à Saint-Jean-Baptiste de La Salle, le fondateur des frères des écoles chrétiennes que nous connaissons bien ici et qui ont fait tant de bien et qui continuent à faire beaucoup de bien au Québec. Ce saint, c'est Saint-Joseph de Calasanz, mort en 1648, un Espagnol. On dit souvent qu'il est fondateur des écoles Pie, P-I-E-S, ou des scolopes. Donc, Saint-Joseph de Calasanz est avec Jean-Baptiste Lassalle, qui lui a vécu presque à la même époque. Il est né 3 ans après la mort de Saint-Joseph de Calasanz. En effet, Jean-Baptiste Lassalle, qui était prêtre, est né en 1651 et l'autre est mort en 1648. Et Jean-Baptiste Lassalle est mort en 1719. Ce sont de grands éducateurs du 17e siècle. Mais on fait remarquer parfois que les frères des écoles chrétiennes de Saint-Jean-Baptiste Lassalle se limitaient à un enseignement élémentaire donné aux enfants du peuple. Ils se tenaient près des pauvres, des enfants simples qui avaient grandement besoin d'instruction. Alors que les prêtres, les pères des écoles pies, qu'on appelait les piaristes ou, comme je vous ai dit tout à l'heure, les scolopes, scolope, ça vient de scolé piller, école pieuse. Et c'est devenu, chose étrange, scolé piller, c'est devenu scolope. Alors, eux, ces prêtres, sont partis des plus pauvres à Rome. Bien que le fondateur était espagnol, c'est à Rome que ça a été lancé, tout ça. Ils se sont adressés aussi parfois aux jeunes nobles pour une instruction plus poussée, un peu comme les jésuites faisaient. C'est une certaine concurrence, donc, avec les jésuites, les fils de Saint-Ignace de Loyola, qui lui est mort, n'est-ce pas, en 1556, un siècle, pour ainsi dire, avant Saint-Joseph de Calasanz. Il y avait aussi certains instituts cléricaux récents, là, des instituts de prêtres, qui faisaient un peu la même chose. Joseph de Calasanz, Calasanz, je l'appelle au cas où vous vous demandez comment ça s'écrit, ça s'écrit, pour ainsi dire, comme ça se prononce, C-A-L-A-S-A-N-Z. C'est un grand saint, hein? Malheureusement ignoré ici, très connu dans d'autres pays, très connu à Rome, très connu en Espagne, parce qu'il est né en Espagne. C'est un Espagnol. Il est né en 1556, l'année même de la mort de Saint-Ignace de Loyola. Il est né à Peralta de La Salle. Curieux, le même nom que Saint-Jean-Baptiste de La Salle. De La Salle, c'est S-A-L seulement. C'est dans la province de Huesca, disons l'Aragon, au nord-est, n'est-ce pas, de la péninsule de l'Espagne. Sa famille, on disait d'eux qu'ils étaient des ricos hombres, c'est-à-dire de riches hommes. Et c'est vrai, d'ailleurs. Il va hériter d'une fortune immense. C'était un des plus notables de son pays. À 5 ans, d'ailleurs, le petit Joseph de Calasanz a déjà un tempérament fougueux. Il se livre à la chasse aux démons avec un couteau. Et dès qu'il sait lire, il apprend vite, il aime à lire et réciter, croyez-le pas, le petit office de la Sainte Vierge. Pour un petit bonhomme plein de caractère, c'est tout de même sympathique. Comme on jouait, nous, les gens âgés, on jouait, les garçons, on jouait à la messe quand on était jeunes, plusieurs d'entre nous, en célébrant des messes avec des petits calices et puis un peu de jus de raisin, puis des petites hosties qu'on réussissait à se trouver, puis qui n'étaient pas consacrées, évidemment. Eh bien, puis des soutanes, et puis souvent même des vêtements, ça sert de tout. J'avais un ami qui avait tout ça, lui. Il avait tout reçu ça de ses parents, qui avaient un peu d'argent. Eh bien, lui, il catéchise les autres enfants. Et puis, il fait ça avec beaucoup de zèle. Hein. Il leur apprend les vérités du catéchisme. Alors, il fait connaissance aussi avec la vie des saints. Ça le marque beaucoup, un peu trop peut-être même. Parce que il prend des goûts de pénitent et puis il s'amuse un peu. Je pense pas qu'il se faisait souffrir bien gros. Alors finalement, en grandissant, bien il étudie à Estadilla et on l'appelle à cet endroit le petit saint. A du caractère, un petit saint. Puis il étudie à Lérida le droit civil et le droit canon. Les étudiants l'aiment beaucoup. Il est très populaire. Alors, il est élu, comme on disait à l'époque, non pas président des étudiants, mais prince des étudiants. C'était la façon. Finalement, en 1575, à 19 ans, Joseph de Calasanz est tonsuré. Je vous ai déjà expliqué ça, les plus jeunes, là. On lui a enlevé un peu de cheveux sur le dessus de la tête pour signifier sa consécration à Dieu et sa destination au sacerdoce, à devenir prêtre. Il continue sa formation à Valence. Mais là, comme il y a beaucoup de charme, il va être riche. Il y a une cousine qui est un peu insidieuse, qui se met à tourner autour de lui. Elle est même un peu dangereuse. Mais tout se règle, heureusement pour lui, et ce jeune, disons, théologien, il étudie la théologie, vient à Alcala, puis il est promu docteur en théologie, et là, il rentre chez lui au château, puis il fonde des académies pour les jeunes. En 1583, il est ordonné prêtre, à 27 ans. Il n'a que 28 ans lorsque l'évêque de Jaca, ou Jaca si vous préférez, le fait son théologien, car il est brillant, il a beaucoup de talent, il est merveilleux. Et Joseph de Calasanz, c'est déjà un esprit très mûri à 28 ans. Il est même capable, imaginez, de rédiger un mémoire sur la réforme des Augustins. Ça vous dit quelque chose, hein? On est au 16e siècle, là. Et il y a eu, quelques années plus tôt, en 1520-21-22, la réforme luthérienne, Luther, qui était Augustin, moine Augustin, a quitté les Augustins pour se marier avec une religieuse. Et fonder, en somme, cette église réformée luthérienne, séparée de la grande église catholique. En octobre 1585, donc à 29 ans, il visite le fameux monastère bénédictin de Montserrat. Montserrat, c'est pas tellement loin de la France, c'est en Catalogne. La Catalogne, ça donne sur la Méditerranée. Et ça fait pas tellement loin d'aller là, au Montserrat. C'est un des monastères les plus sublimes du monde, qui est construit dans des rochers qui deviennent roses le soir. Et les moines ont une école, ce sont des Catalans en général. C'est le centre du patriotisme catalan en Espagne. Ces gens parlent une langue, le catalan. Ils sont espagnols, d'accord, mais ils sont de tempérament souvent assez indépendantiste, très fiers d'eux-mêmes. Alors il va au monastère de Montserrat, monastère bénédictin, puis, il contribue là, bien que jeune prêtre, à y promouvoir un mouvement de vie fervente, de vie plus fervente. Hein. Finalement, son père meurt l'année suivante, en 1586, car c'était en octobre 85 qu'il est allé au monastère faire ce geste assez surprenant. Et Joseph de Calasanz, donc ce jeune prêtre, se trouve à la mort de son père, comme je vous ai dit, à la tête d'une grande fortune. Il fait aussitôt des tas d'aumônes, des aumônes importantes. Il est très généreux. Puis, il se retire dans son château pendant un certain temps pour pratiquer, chose un peu surprenante, la vie d'ermite, comme une espèce de longue, longue retraite. Dans son château, mais il vit comme un ermite. Il vit très pauvrement dans son château. Mais son évêque, c'est l'évêque de la ville d'Urgel. Il le prend comme vicaire général pour une partie de son territoire. Et Saint-Joseph de Calassanz, ben, c'est un homme qui est très grand. Il est très fort. Joseph de Calassanz, parfois, aime bien prouver sa force, son énergie. Il a un tempérament jeune au fond de son cœur et sympathique. C'est un prêtre sympathique. Il veut bien montrer qu'il pourrait être le champion de tous les prêtres. Et puis, il aperçoit un jour des prêtres qui s'exercent au lancement du javelot. Tu sais, on voit ça dans les Jeux olympiques, le javelot, le lancement du javelot. Alors, il le lance deux fois plus loin qu'eux et tout le monde est ébahi par Saint-Joseph de Calassanz qui est si fort. Un autre jour, il aperçoit un fermier qui a... son animal est embourbé comme dans un marais. Il va s'enliser. Alors, on ne sait trop par quel moyen, par son courage et sa force, il tire du marais cette bête. Son activité, aussi pour la réforme du clergé, obtient de beaux résultats. En 1590, à 34 ans, il finit par devenir vicaire général pour tout le diocèse, mais il se sent obligé intérieurement, un appel mystérieux, secret, il se sent obligé intérieurement d'aller à Rome, quitter l'Espagne. Et après des hésitations, alors sur le conseil de son directeur de conscience, il demande, puis il obtient la permission de partir. Puis il arrive donc à Rome, où sa sainteté va se manifester de façon fantastique. Il arrive à Rome auprès des tombeaux des saints apôtres Pierre et Paul, et les tombeaux de tant de saints. Durant le carême de 1592, il a 36 ans. Saint-Joseph de Calassanz arrive donc à Rome à l'âge de 36 ans. Il sent au fond de son cœur brûler les paroles de la première lecture aujourd'hui à la messe. C'est une lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Si vous allez à la messe aujourd'hui, vous entendrez ces belles paroles où Saint Paul dit « Frères et sœurs, si j'annonce l'Évangile, je n'ai pas à en tirer orgueil. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi, si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le faisais de moi-même, je recevrais une récompense du Seigneur, mais je ne le fais pas de moi-même. Je m'acquitte de la charge que Dieu m'a confiée, il était prêtre. Alors pourquoi recevrais-je une récompense? Parce que j'annonce l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, ni faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Alors, pendant 5 ans, mais à 36 ans, je vous rappelle, quand il arrive là, à Rome, pendant 5 ans, il mène une vie cachée. Il se lève à minuit, fait le pèlerinage des basiliques, se promène d'une basilique à l'autre. À Rome, il y a beaucoup de basiliques. Vous les connaissez, la basilique du Latran, la basilique Sainte-Marie Majeure, la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs, Saint-Pierre-Vatican, etc. Alors, c'est le pèlerinage des basiliques avant l'aurore. C'est de longues promenades, ça. Les hôpitaux, les prisons l'ont pour serviteur presque anonyme. Il loge quand même chez le cardinal très, très illustre Marc-Antoine Colonna. Il y a eu un Colonna qui a été pape. Beaucoup ont été cardinaux, comme ce Marc-Antoine Colonna. Et ce Marc-Antoine Colonna est un bon cardinal qui le prend pour conseiller une famille extrêmement puissante, les Colonna. En 1596, donc 4 ans après son arrivée à Rome, la peste éclate dans la ville et Joseph de Calassanz aide qui? Le fameux Saint Camille de Lellis, dont je vous ai déjà parlé, à le combattre. C'est l'émission numéro 55. Il y a bien longtemps que je vous ai parlé de Saint Camille de Lellis, au tout début. Et plus de 3 ans. Joseph voit avec peine, à ce moment-là, en soignant les malheureux, Il constate l'ignorance religieuse de la foule des gens simples. Il se dit l'école gratuite, voilà ce qui leur ferait du bien. Ah, il est habité par cette idée. C'est l'Esprit Saint ensemble qui l'inspire. Il est saisi. Et on trouve dans un beau livre publié par Mediapol, Saint-Joseph de Calasanz, par Dionisio Cueva, c'était traduit en français. Pas n'importe qui, Dionisio de Cueva, qui est né à Burgos en 1924, donc il a 74 ans. Il est licencié en droit canonique de l'Université grégorienne de Rome, en philologie hispanique de l'Université de Saragosse. Il est professeur en lettres hispano-américaines à l'Université de Buenos Aires. C'est un membre de cette communauté. Son livre, son petit livre qui coûte pas cher, Saint-Joseph de Calasanz chez Mediapol, est écrit dans un style dynamique et merveilleux. Et il cite à un moment toutes sortes de choses. Il dit qu'un père Catalucci, qui résume exactement la conjoncture dans laquelle se trouve à ce moment Saint-Joseph de Calasanz, il dit « En visitant les malades et les pauvres de Rome, Joseph de Calasanz comprit avec amertume que la majorité des enfants pauvres se livraient au vice et que leurs parents, n'ayant pas les moyens de les mettre à l'école, les abandonnaient dans la rue. » Dans le même sens, le père Berro ajoute « Quand il parcourait 6 ou 7 ans durant la ville de Rome comme visiteur de la confrérie des saints apôtres, à maintes reprises, il avait rencontré une quantité d'enfants qui, par pauvreté, ne pouvaient être inscrits dans les écoles par leurs parents, et qui, livrés à eux-mêmes, oisifs, se perdaient physiquement et moralement, se donnant à tous les vices qu'enseignent l'oisiveté et le besoin. Certains d'entre eux ne savent même pas le Notre Père, l'Ave Maria, ni les rudiments de la doctrine chrétienne. » Ça commence comme ça maintenant à Montréal. Je connais des jeunes qui ne savent à 20 ans ni le Notre Père, ni l'Ave Maria, ni le Je vous salue Marie. C'est incroyable. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un chapelet. D'autre part, dit ce père Berro, il envoyait d'autres très doués, très prometteurs, qui, bien orientés et éduqués, auraient fait de grands projets avec un extraordinaire profit pour leurs âmes. Alors, cette époque, Rome, on peut dire, avait deux faces, hein, l'une réelle, l'autre cachée. Les apparences sautaient aux yeux, puis c'était facile à comprendre. Mais l'autre face, celle des élus, qui sont toujours minoritaires, la découvrirait peu à peu. C'est la face cachée de la ville, qui était composée de pauvres, d'analphabètes, de ceux qui avaient perdu la foi, le monde des mendiants, des nobles honteux d'avoir tout perdu, des enfants sans pain et sans école. Il fallait ouvrir la voie, alors. Et les pauvres avaient les mêmes droits que les riches, en fait. Pourquoi pas? Ils ne devaient plus être jetés à la rue, ni gâcher leur talent. Il faut les prendre dans ses bras, puis les aimer, puis les aider. La solution était dans l'école pour tous, selon Saint-Joseph de Calasanz. Une école quotidienne gratuite qui donne une vraie formation. Alors on peut accompagner Saint-Joseph de Calasanz. Dans sa tournée des rues de Rome, il frappait à de multiples portes. Il appelait à l'aide pour ses pauvres enfants. Il a frappé d'abord à la porte des maîtres de l'enseignement public qui dirigeaient des écoles de quartier. C'était des réponses négatives. Le père Berro dit que ces gens-là n'admettaient pas gratuitement plus de 6 ou 8 élèves chacun, s'excusant en disant que le Sénat à Rome et le peuple romain ne les payait pas pour un plus grand nombre. Bon. Alors, Saint-Joseph de Calasanz va demander aux administrateurs municipaux s'ils consentent une plus grande générosité. Alors, il monte au Capitole, hein, c'est l'endroit où on administre. Il parle. Les budgets paraissent, les sénateurs et les administrateurs en savent long sur les budgets, puis avec une affaire aussi sacrée que le budget, ben on ne peut s'y prendre à la légère, et deuxième réponse négative. Alors il se souvient des jésuites, il va directement au collège romain, les jésuites. On le reçoit bien même, mieux que l'ont fait les maîtres et les sénateurs. Les jésuites, ça a quand même du cœur, mais ici, c'était pas une question de riche et de pauvre, il fallait respecter le règlement. Puis le règlement stipulait que pour s'inscrire au collège romain des Jésuites, là, le candidat, l'étudiant, devait savoir sur le bout des doigts les verbes irréguliers latins. Alors, Saint-Joseph de Calassanz doit fermer les yeux en se rappelant les visages crasseux des gamins puis les scènes de la rue. C'est un troisième refus. Alors, il fait une marche d'approche à la Minerve, chez les Dominicains, quoi. C'est pas loin du collège romain puis du Panthéon, ça, à Rome. Les Dominicains de la Minerve tenaient une école, mais c'était une école avec un « E » majuscule. Les Dominicains ont compris. Ils ont... quoi? Ben, ils ont promis de prier. Mais c'était mieux que rien, disons. Du moins, l'amertume de cette quatrième réponse négative était un peu adoucie par la prière. Joseph de Calassanz traverse donc le Tibre. Vous savez, le fleuve là, qui sépare Rome en deux. Il entre dans le Transtévère, une région pauvre, accompagné de Jacques d'Avila. Chemin faisant, Joseph de Calassanz raconte à son ami qu'il avait fait plusieurs démarches pour que quelqu'un puisse enseigner aux enfants pauvres les choses de la foi. Il n'avait trouvé personne. Personne qui veuille se dévouer à cette œuvre, une œuvre si sainte, disait-il, et qu'il avait l'intention de faire lui-même ce qu'il pourrait. Alors, tout en parlant, ils arrivent à l'église Sainte-Dorothée pour que le curé leur donne la liste des malades de la paroisse. Et bien entendu, le prêtre leur donne cette liste. Il leur montre sa petite école. Ce curé s'appelait, c'est un nom à retenir, car c'était une sorte de saint qui n'est pas canonisé, Antonio Brandini. Il avait eu la bonté d'ouvrir une école, en tirant parti d'un local vide et de la sacristie par intermittence pour les enfants de ses paroissiens. Outre ceux qui aidaient par leur service, tous apportaient quelque chose. Et l'instruction se bornait à quoi? Bien la lecture, l'écriture, un peu de calcul, puis évidemment le catéchisme. Et plusieurs confrères de la doctrine chrétienne, comme on les appelait, donnaient de temps en temps un coup de main à l'abbé Antoine ou Antonio Brandini. Sur le moment, ce fut la surprise. Joseph de Calassanz revient en mai. Puis en janvier 1598, cette fois de suite, et là, la solution ne serait-elle pas au Transtévère? Cet abbé Antoine était pétri de bonté, son dévouement aux enfants le prouvait. Alors Calassanz parle avec lui, puis il propose sans détour de consacrer l'école exclusivement aux enfants pauvres. Il viendrait de tous les horizons. Alors, là, d'accord, gratuit, oui, pour les pauvres, pour tous les pauvres. Ah, il considère toujours cette église Sainte-Dorothée comme l'origine de son institut. Et le fameux Ludwig von Pasteur, qui a écrit l'histoire des papes, il affirme en 1597, cette église Sainte-Dorothée du Transtévère, c'est là que naquit la première école publique populaire gratuite d'Europe. Alors, Joseph de Calassanz a écrit un petit catéchisme pour les enfants de cette école. Il l'intitule « Certains mystères de la vie et de la passion du Christ notre Seigneur ». Oh, c'est écrit dans un style dialogué. Il paraît que c'est très intéressant à lire. L'auteur condensait toute sa théologie sur la Trinité, la vie de Jésus, la rédemption, l'Eucharistie, la très sainte Vierge, l'Église catholique, en 64 questions et réponses. Et les enfants apprenaient les réponses par cœur et les savaient. Et les questions traçaient une ligne bien structurée et simple. Les réponses étaient brèves, directes, et le dialogue créait un climat cordial qui s'interrompait deux fois pour que le maître et l'élève s'agenouillent et récitent ensemble notre Père. Quelle belle idée pour enseigner la foi. La petite école est devenue bientôt trop petite. On a loué un local voisin. La veille de Noël 1598, le Tibre en crue s'est acharné sur la paroisse et l'école. C'était horrible. 1400 personnes, d'autres disent 4000, ont péri noyées et les eaux ont épargné les élèves, mais l'école a été inondée. Il a fallu déménager. Il est question aujourd'hui d'un saint merveilleux que l'on n'a pas fêté l'an dernier en 1997, alors que ça faisait 400 ans qu'il avait fondé sa fameuse école à l'église Sainte-Dorothée du Transtévère à Rome, première école publique populaire gratuite d'Europe et probablement du monde. On n'a pas célébré ça, on a ignoré ça, je crois. L'école Sainte-Dorothée, inondée, atterrit place du Paradis, c'est un, en dépit du nom. C'est un coin de la ville de Rome aussi affreux que le Transtévère. D'abord dans une maison, puis bientôt dans une autre. car déjà près de 500 élèves s'y inscrivent. En 2 ans, 2 écoles. Elles avaient un oratoire, très important, un oratoire pour les prières des enfants et des maîtres. On prie dans ces maisons-là. Pour la catéchèse, les élèves vont à la paroisse. Parmi les anciens collaborateurs, seul, dénommé Marco Antonio Arcangeli, s'était embarqué dans l'aventure. Et Calasanz aurait voulu que la confrérie de la doctrine chrétienne assume ses écoles, avec les charges, les honneurs qui en découlaient. Mais il y a eu une réponse négative, et à force de se voir claquer les portes, il a compris ce que le Saint-Esprit voulait, il a compris toute la vérité. C'était à lui d'assumer l'œuvre comme sienne, d'en assurer la subsistance, un problème très difficile, de la diriger du point de vue pédagogique aussi, pour qu'elle se maintienne, qu'elle prospère. Parce qu'elles étaient gratuites et pour tous, il les baptisa les écoles PIE, P-I-E-S. De plus en plus d'élèves ont obligé un nouveau déménagement. Il a loué la maison de Mgr Vestri, qui était vaste. C'était un mur mitoyen avec l'église Saint-Andrea de la Valle. Pour 200 écus par an. Et Mgr Vestri, qui était secrétaire pontifical, a vu là le prodige. Il en a parlé au pape Clément VIII, et le pape a ordonné que 2 cardinaux, le fameux César Baronius et l'autre Silvio Antoniani, qu'ils visitent les écoles, qu'ils lui rapportent la vérité. Et leur rapport lui a fait grand plaisir au pape Clément VIII. Alors il a répondu en payant les 200 écus de l'allocation. Et ainsi de suite, avec les papes, avec les cardinaux, tout le monde, pendant un bon bout de temps, se sont montrés très, 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 très généreux à son égard. Comme l'enseignement, c'est une chose extrêmement difficile auprès d'enfants très pauvres comme ça, c'était avec un but apostolique. Comment pratiquer ça dans la grande pauvreté? C'était pas possible. Et tout en gardant la charité et en respectant, disons, les formes, on en est arrivé à cette conclusion que plutôt que de rapiécer un vieux bâtiment, il fallait fonder une nouvelle congrégation religieuse, puis placer Saint-Joseph de Calasanz à la tête. Alors l'idée s'est développée, puis dans la seconde quinzaine de février 1617, au Vatican, on a mis sur pied le texte d'un bref, un texte solennel, que le pape va signer plus tard. Alors on a voulu le nommer fondateur. Joseph de Calasanz se sentait déjà vieux à 56 ans. Dans ce temps-là, ça commençait à être vieux, 56 ans, imaginez. Et il y en avait maintenant près de même de 60, là. Comment accepter d'être nommé fondateur? Alors, il s'est souvenu de Saint-Benoît, de Saint-François, de Saint-Dominique, de Saint-Ignace, de celle qu'il aimait par-dessus tout, Sainte-Thérèse d'Avila. Tous des saints, de grands saints. Lui, simple petit prêtre séculier, un chanoine raté, un pauvre, un vieux, et réduit à l'état de maître d'école, quoi. Alors, dans ces cas, il s'est armé de foi et de vigueur. Il a fait un retour sur lui-même. Ses meilleurs amis le voulaient fondateur. Les enfants aussi, d'ailleurs. Et Dieu, qu'attendait-il de Joseph de Calasanz? Et voilà que ses souvenirs le ramènent à Rome. Cette rencontre avec la pauvreté, c'est très beau ce passage. Le père Silvestro Belli en a recueilli le secret. Étant dans l'église des Stigmates, une jeune fille à demi vêtue de haillons lui apparut en larmes et lui demanda « Qui es-tu ?» Elle répondit « Je suis la pauvreté et tous me fuient. » Alors le serviteur de Dieu dit « Viens ici, je vais te couvrir. » Et il voulut l'envelopper de son manteau. Et alors, elle disparut. Et Silvestro Belli, le père Belli, raconte, « Je tiens cela de la bouche même du père Joseph. » C'était les signes de Dieu. Il en est arrivé d'autres. Ça semblait suffisant pour comprendre le message. Alors, il a baissé la tête et a prononcé le « oui » de son consentement. Alors, le bref, complexe du pape parachevé rapidement par des canonistes, des calligraphes. Très beau texte, fut signé par le pape. Le 6 mars 1617 synthétisait la pensée de Saint Joseph de Calasanz en érigeant dans l'Église la congrégation Pauline des pauvres de la Mère de Dieu des écoles Pie. Un nom bien long. Congrégation Pauline des pauvres de la Mère de Dieu des écoles Pie. Et le supérieur général y était nommé, c'est le père Joseph de Calasanz. Ces religieux professeront les vœux d'extrême pauvreté, de chasteté et d'obéissance réservés au pape. Les écoles s'ouvraient à tous les enfants avec une préférence pour les pauvres. Ils stipulaient que ceux qui entraient dans la congrégation, je cite le texte, ceux qui entraient dans la congrégation travaillaient, s'ingéniaient et s'engageaient à enseigner aux enfants les premiers rudiments de la grammaire, du calcul et surtout les principes de la foi catholique, qui s'engageait à leur inculquer de bonnes manières aussi, et à les éduquer chrétiennement, gratuitement, sans recevoir solde, ni paie, ni salaire, ni même des honoraires. Bon, tout était bien, à part une coupe qu'ils ont fait et qui n'était pas moindre. Le bref notait que l'enseignement atteigne le niveau de la philologie. Ils l'ont laissé au niveau de la grammaire au début, pendant un bon bout de temps. Il fallait porter l'habit, chercher un nom, cela ne c'était pas tellement difficile. Joseph de Calasanz écrit, le 25 mars de l'année 1617, le cardinal Giustiniani fit à ses frais pour 15 personnes les habits qu'on utilise aujourd'hui, et lui-même habilla le père Joseph dans sa chapelle, et 14 autres, le même jour, dans l'oratoire des écoles Pie. L'habit correspondait parfaitement à la grande pauvreté. Écrit dans le bref. Une soutane noire, longue jusqu'aux pieds, avec une seule ouverture sur la poitrine, fermée avec des boutons en bois, et un manteau jusqu'aux genoux, de la même étoffe noire et tellement grossier qu'il effrayait. Il était de cette espèce dont on fait les housses pour les montures, pour les chevaux. Avec les pieds nus et des sandales fermées, quoiqu'après quelques jours ils ont porté des sandales ouvertes, c'est-à-dire des sandales à l'apostolique. Sans chemise au début, mais plus tard, sur conseil des médecins, ils firent une chemise de toile d'étoupe très épaisse et grossière, et finalement, au fil du temps, ils mirent des chemises de laine. Ainsi vêtu, chaussé, Calasanz s'appellera plus tard Joseph de la Mère de Dieu. Mais il va continuer à se faire appeler le Père Joseph par les gens, et avec beaucoup d'affection par les enfants. En 1621, la congrégation est érigée donc en congrégation à vœux solennels par Grégoire XV sous le nom, comme je vous ai dit, des pauvres clercs de la Mère de Dieu. Et Joseph, nommé général, donc à 66 ans. Les écoles se multiplient avec une rapidité merveilleuse et de Rome, elles se propagent en Italie, en Allemagne, en Bohême, en Pologne. C'est un développement rapide qui amène quelques dissensions peut-être dans le personnel enseignant. Il y a des frères coadjuteurs qui ambitionnent le sacerdoce. C'est normal, au fond. Il y en a ici des frères enseignants qui deviennent prêtres. Il y a des religieux insoumis qui exploitent ces difficultés pour présenter Joseph comme trop âgé puis incapable de gouverner. Il y a un prêtre médiocre qui est entré dans l'Institut à Naples, le père Sozzi. Il y avait une quarantaine d'années, en 1630. Il réussit à se faire bien voir du Saint-Office au Vatican en éventant à Florence des histoires de mauvaises mœurs. Et fort de cet appui incomparable, il s'allie à un père Cherubini, qui est un autre indésirable, qui avait des protecteurs à la cour de Rome pour faire la loi, donc chez les scolopes, ces religieux-là. Et le 8 août 1642, le père Sozzi réalise ce coup de maître de faire arrêter Saint Joseph de Calasanz et toute sa curie généraliste. Âgé de 86 ans, tête nue et à jeun sous un soleil brûlant, ce vénérable supérieur, 86 ans, montre une dignité toute espagnole, ou mieux une sérénité rayonnante de vrai chrétien, pendant le long trajet ignominieux jusqu'à l'interrogatoire sur des questions de mœurs, sans doute avec des jeunes garçons. Et au Saint-Office, c'est l'heure de la sieste, et l'inculpé fait collation, il dort, et l'affaire est vite éclaircie, et Saint Joseph de Calassanz est reconduit en carrosse à Saint Pantaléon où il habite. Toutefois, en 1643, ce père Sotti lui est imposé comme premier assistant quand même. Un visiteur, le jésuite Pietrasanta, est également infligé au bon vieillard. C'est un jésuite un peu désagréable, parce qu'il était influencé par le père Cherubini puis le père Sotti. Et le père Sotti meurt à la fin de 1643, puis Cherubini devient vicaire général de l'Institut. Alors Joseph supporte tout ça avec une patience digne du Christ dans sa passion. Il souffre des outrages sans nombre. Il dit à ses rares confidents, car ses bourreaux font le vide autour de lui, « Ce serait folie de s'attacher aux causes secondes, les hommes, et de ne pas voir Dieu qui les envoie pour notre plus grand bien. » Si Saint Joseph de Calassanz était parfaitement résigné pour lui-même, il gardait une grande énergie pour maintenir, autant qu'il le pouvait, l'idéal primitif de son institut. Alors, ces deux pères étranges, le Cherubini et le jésuite Pietrasanta, semblent s'acharner à réduire, à détruire les écoles pies. D'autre part, heureusement, des princes influents, et notamment le roi de Pologne, réclament hautement leur restauration puis leur extension. Par malheur, une parente du pape, qui s'appelle Olympia, est privée de son confesseur, c'est un père des écoles pies, qui a été déplacé. Et la tristesse étrange de cette parente du pape se tourne en fureur contre Saint Joseph de Calassanz. En 1645, on croit un instant à un retour de l'ancien régime, celui de Joseph dans les écoles pies. C'est une explosion de joie et on tire un feu d'artifice à l'école de Frascati, mais bonheur de courte durée. En 1646, il a 90 ans, le pape Innocent X, qui ne revient pas en arrière et qui d'ailleurs ignore la vérité sur l'institut de ce Saint-Joseph de Calassanz, 90 ans, n'est-ce pas, supprime les écoles pies. Imaginez la souffrance. Et en 1647, l'année suivante, le fameux visiteur jésuite Pietrasanta meurt. Et en 1648, encore l'année suivante, c'est Cherubini qui, ce lamentable prêtre, meurt à son tour. Il est repentant, puis il est pardonné par Saint Joseph de Calassanz. Mais il reste Olympia, la parente du pape, qui veille à ce que son ennemi ne puisse mourir content. Elle lui en veut. La haine dans l'Église, parfois, de la part de certaines personnes. Pourquoi? Pourquoi? Alors, le 21 juillet 1648, Saint Joseph de Calassanz, je vous le rappelle maintenant, il a 91 ans, là. Au cours d'un pieux pèlerinage, il se blesse un orteil contre une pierre et puis sa maladie de foi chronique se met de la partie, il la soigne par un étrange onguent puis l'application d'une plaque ovale de marbre longue de 25 centimètres qui est trempée dans l'eau froide. Et écoutez bien ça, c'est étrange. Il y a un prêtre un peu maladroit qui la brise le 15 août. Alors, donc le mois suivant, et puis, brûlé de fièvre, il se gargarise, parfois sans avaler une goutte d'eau, pour obéir au médecin. Puis un Anglais lui conseille de mâcher des tranches de citron trempées dans l'eau et saupoudrées de sucre. Mais quand il apprend que ce soulagement avait été inventé par Henri VIII, qu'il appelle l'apostat, Joseph de Calassanz, c'était survenu, ce schisme 100 ans plus tôt, n'est-ce pas, en Angleterre, Joseph repousse avec indignation cette recette qu'il appelle hérétique. Il meurt le 25 août, âgé de presque 92 ans. À l'autopsie, son foie a été trouvé un peu plus petit qu'à l'ordinaire. Il avait de la chaux dans les intestins, ce qui est extrêmement douloureux. Dans ses derniers jours, Rome avait défilé dans sa chambre en quête d'une bénédiction ou d'une relique à piller, comme on fait dans cette époque surtout. Le cadavre est exposé, puis dépouillé, puis presque lacéré. Dans la piété populaire, on était étrange à cette époque. la garde corse a été obligée de dégainer pour repousser la foule. Il a fallu même mobiliser la garde suisse du Vatican. Si on fermait les portes, les gens descendaient par les toits. On n'avait rien vu de tel, même pour la mort de Saint-Philippe Néri. En 1656, l'Institut a été reconstitué par le pape Alexandre VII. Joseph, d'ailleurs, en mourant, l'avait prophétisé. Ce saint religieux, admirable surtout par son obéissance humble à des supérieurs indignes, a été béatifié en 1748 par Benoît XIV. 100 ans après sa mort, quoi. Et canonisé en 1767 par Clément XIII. Un de ses disciples, un de ses fils, on peut dire, Pompilius Marie Pirotti, a été déclaré saint. C'est un homme admirable, un père de la jeunesse, un Job du Nouveau Testament, comme Saint Joseph de Calassanz. Il avait un culte pour les jeunes martyrs qu'il proposait comme modèle à ses élèves, comme on nous proposait Saint Tarcisius quand on était jeune, mais lui proposait Saint Just et Pastor, qui sont morts près de Madrid au début de l'Église, des jeunes qui ont été d'un courage extraordinaire dans le martyre, et ainsi que des saints de Sicile, Alpheus, Philadelphe et Cyrin. Il y a un bref apostolique de 1948, il y a 50 ans, le 13 août, qui a exalté Saint Joseph de Calassanz comme apôtre de l'éducation et patron de toutes les écoles populaires chrétiennes. Les reliques de ce grand saint ont été transportées en 1948, il y a 50 ans, jusqu'au pays natal, l'Espagne, pour revenir l'année suivante glorieusement à Rome, où on tenait à les conserver. On peut dire qu'il est sorti pour la dernière fois de sa maison à la mi-juillet 1648 pour visiter l'église du Sauveur. Il voulait gagner une indulgence plénière et au retour, à cause de sa mauvaise vue, c'est là qu'il s'est blessé. Il a célébré la messe le 1er août, s'est couché. Le 2, c'était un dimanche. Il assistait à la messe dite par le fameux père Béraud, dont j'ai parlé tout à l'heure. Puis il a eu la joie, pour lui, immense, de communier parmi les enfants. Il y a un tableau de Goya, les pinceaux du génie. Goya ont su écrire et décrire cet instant mieux que on pourrait le raconter. Il faudrait regarder ce tableau. On y voit le visage de ce saint, et sur ses mains, ce cœur d'enfant admiratif tout autour de lui. Lui et eux méritaient ces adieux-là. Mais les médecins ont été impuissants. Quand Dieu veut rappeler quelqu'un au ciel, il retire au médecin la connaissance du mal, disait-il. En souriant, évidemment. Le mal, comme je vous ai dit tout à l'heure, avait pris racine dans son foie. On soulageait sa misère un tout petit peu par la petite plaque de marbre là, qui était attiédie, je n'ai pas dit ça tout à l'heure, dans l'eau de la fontaine de la cour. Puis il fallait beaucoup de patience pour endurer ces espèces de médicaments et les tourments étranges. C'est un lieu saint que la chambre dans laquelle il est mort. Entre ses murs se sont déroulées des scènes émouvantes. Il exhortait ses religieux pour qu'ils demeurent unis, afin que pour rien au monde ils n'abandonnent l'enseignement, et qu'ils aiment cet institut qu'il avait fondé, qu'ils aient confiance en la très sainte Vierge aussi. Il n'arrêtait pas de les appeler fils bien-aimés. C'est un vrai père. Saint Joseph de Calassanz pleurait d'émotion et priait avec eux. Il bénissait les présents, les absents, ceux de Rome et de toutes les autres maisons à travers le monde. Sainte Thérèse d'Avila, comme une infirmière, lui est apparue. Et Notre-Dame l'a consolée, sous le vocable de Notre-Dame des Monts. Il disait, oui, la Vierge des Monts me l'a dit, que je sois content et que je ne doute de rien. Il allait confiant voir Dieu. Il était confiant, il n'avait peur de rien, ni de son salut, ni d'un proche printemps pour l'Institut qui ressusciterait. On appelle souvent les scolopes les piaristes aussi, ces religieux. Il y avait même des piaristes donc qui étaient morts, qui venaient le voir, il apparaissait. Il en compta 254, disait-il. Il dit, il en manque un seul. Un prêtre Barnabé, un ami qui s'appelait Constantino Palamola, à qui il a révélé sa vision, lui a demandé le nom de l'absent. Mais il n'a jamais voulu répondre. L'absent était sans doute en enfer. Il en manquait un, et ça l'a fait beaucoup souffrir. Les autres étaient tous au ciel. Il restait deux jours seulement. Il a appelé les pères Berro et Fedele. Faites-moi cette faveur pour l'amour que je vous dois. Allez au Vatican. Gagnez pour moi l'indulgence. Baisez les pieds de la statue de Saint-Pierre. Demandez de ma part la bénédiction pour qu'il m'obtienne de la grâce du Seigneur le pardon de mes péchés et ajoutez les dévotions qui vous plaisent. Allez ensuite chez le valet de chambre du cardinal Cecchini et priez pour qu'il m'obtienne du pape l'indulgence in articulo mortis, à l'article de la mort. Et la nuit du 24 août, les pères Berro et Morelli sont venus au chevet du malade et la mort approchait silencieusement. Et le père Morelli a sonné la cloche de la communauté. Les religieux ont accouru. Et là, le père Berro avait déjà commencé la recommandation de l'âme. Mais, a-t-il déclaré, je cédais l'étole et le rituel au père Castille comme supérieur de la maison. Puis a continué la recommandation, accompagné par tous les frères. Que c'est beau la mort dans les communautés comme ça. Puis ils ont écouté comment le vénérable père Joseph répondait à tout. Joseph, Saint Joseph de Calassanz, a levé le bras comme pour bénir. Il est allé au ciel en prononçant trois fois, « Jésus, Jésus, Jésus. » Son corps est demeuré très beau, comme s'il était vivant. Avec des couleurs sur le visage et un doux sourire aux lèvres. Trois coups de cloche ont sonné à l'horloge de la Sapienza. L'aube du nouveau jour n'a pas tardé, il était 2h moins le quart, le 25 août 1648. Le matin suivant, les religieux ont fait descendre le corps du père Joseph de l'oratoire à l'église et très tôt et dans un profond silence. Et en entrant dans le temple, un enfant s'est joint à la procession du cortège depuis la petite place de Saint-Pantaléon. Il s'est approché puis a reconnu le père Joseph et il n'a pas pu se contenir. Il est couru à la rue et de sa voix d'enfant, toute cristalline et prophétique, il réveillait les Romains qui dormaient encore en disant « le Saint, il Santo, le Saint est mort. » Oui, il a mis en pratique cette lecture d'aujourd'hui. « Si j'annonce l'Évangile, je n'ai pas en tiré orgueil, c'est une nécessité qui s'impose à moi. » Nous pourrions l'invoquer pour que nous gardions certaines de nos écoles comme des écoles de foi, ici à Montréal, au Québec. Des écoles où on forme nos enfants vraiment dans la foi.